La première,
17h30, 18h le samedi,
Destination ailleurs, Cédric Gauthier.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la première, bienvenue dans Destination ailleurs. On l'espère que vous aurez profité pleinement de ces premiers rayons de soleil pour sortir le bout de votre nez, que ce soit dans votre jardin, sur votre balcon, en rue ou dans les espaces verts, et profiter voilà, de ce printemps qui arrive tout doucement. Et comme le printemps est à nos portes, eh bien, la nature va se réveiller et les pollinisateurs sont ou seront de retour très prochainement. Alors quels sont les liens entre ces pollinisateurs et la gestion des espaces verts ou agricoles? C'est le thème des recherches de Nicolas Verheyken à l'ULB, une recherche qui sera présentée dès lundi à l'occasion du printemps des sciences. Et justement, nous, citoyens, que pouvons-nous faire dans l'observation de ces pollinisateurs, dans des actions concrètes visant à améliorer le cadre de vie des abeilles et des papillons? On en parle également avec notre deuxième invité, Maxime Drossard, et le projet SAPOL, défendu entre autres par l'Université de Mons et des associations comme Natagora. Il fait beau et on sort dans Destination ailleurs.
Destination ailleurs sur la première.
Bonjour Nicolas Verheyken.
Bonjour.
Alors, vous êtes chargé de cours à l'école interfacultaire de bio-ingénieurs à l'ULB. Et vous allez donc présenter au public, quelque part, votre thème de recherche, hein, le lien entre les pollinisateurs et la gestion des espaces verts, des espaces agricoles, et ce, dans le cadre du Printemps des sciences. En deux mots, peut-être, on va rappeler ce qu'est le Printemps des sciences, une série d'initiatives pour le grand public, pour mieux comprendre aujourd'hui la science et ce que vous faites, vous, entre autres, dans vos universités.
Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a effectivement un travail important à faire, parce que même si on reste sensible à certaines des questions scientifiques, et on se rend compte bien que notre quotidien est parfois animé aussi par toute une série d'éléments qui sont en connexion directe avec la science, mais il y a quand même une partie du grand public qui se distance progressivement de ces questions scientifiques. Donc il y a un gros travail à faire justement pour rendre cette science plus accessible, pour montrer à quel point elle peut être intéressante et passionnante.
Et à quel point elle nous concerne aussi dans la vie de tous les jours. Je rappelle, le Printemps des sciences, c'est du 20 au 26 mars, un peu partout, que ce soit à Bruxelles ou en Wallonie. Alors, je vais vous poser la question. Voilà, il a fait beau cette semaine. Est-ce que les abeilles, les papillons sont de retour déjà?
Bien, pour ceux qui ont eu la chance de passer un petit peu de temps dehors, et bien effectivement on se rend compte que toute la nature est en train de se réveiller. Toute la nature, enfin en tout cas certaines des espèces qui sont les plus printanières, sont en train de se réveiller après cette torpeur hivernale, et on remarque les premières fleurs qui arrivent. Les saules sont en fleurs, entre autres. On commence à voir les premiers pissenlits, etc., les premiers bourdons, les premières abeilles sauvages, les premiers papillons, certains citrons, etc., qui sont en train d'émerger. Et donc là, je pense qu'on est vraiment entré bel et bien dans cette nouvelle saison 2017.
Maxime Drossard, bonjour.
Bonjour Cédric. Alors,
vous êtes donc de l'Université de Mons et vous participez à ce projet, le projet SAPOL dont on vient de parler, avec ce titre, Sauvons nos pollinisateurs, qui est un projet interrégional d'étude, d'abord du cadre de vie, de ce qui se passe au niveau des pollinisateurs, mais aussi un projet qui va permettre aux citoyens peut-être de se lancer dans des actions concrètes pour à la fois compter, décrire les pollinisateurs que l'on peut découvrir dans son espace vert, dans son jardin ou sur son balcon, mais aussi les actions qu'on peut mettre en place pour justement favoriser le développement des pollinisateurs.
Oui, tout à fait. Il y a des actions toutes simples qui peuvent être prises pour diminuer l'impact négatif qu'on a sur les pollinisateurs, comme par exemple renoncer aux pesticides. Et il y a aussi des mesures qui peuvent être prises pour améliorer l'impact positif sur les pollinisateurs, comme par exemple offrir le gîte et le couvert aux pollinisateurs.
Et on va apprendre comment on offre le gîte et le couvert aux pollinisateurs. De manière plus globale, avant de rentrer dans le concret, on voit sur les réseaux sociaux, on l'entend régulièrement dans la presse, les pollinisateurs sont en danger. Il y a une vraie diminution du nombre de pollinisateurs, des abeilles entre autres. Est-ce que c'est un fait réel, avéré aujourd'hui, ou est-ce que ça fait partie d'une certaine idées et d'idées fausses?
Non, malheureusement, c'est un fait qui est avéré. Depuis même plusieurs décennies, on constate un déclin parfois massif de population d'abeilles, de certaines espèces. Et cela a été étudié en Belgique, mais aussi à l'échelle européenne, à l'échelle même mondiale. Et malheureusement, oui, c'est un phénomène qui est avéré.
Nicolas Verheyken, qu'est-ce qui explique ce déclin des pollinisateurs? Et surtout, quel est l'impact aujourd'hui et demain sur la nature et le développement de la nature?
Ce qui explique tout ça, c'est effectivement en grande partie des facteurs qui sont liés à l'activité de l'homme. Donc on pointe évidemment dans le déclin des pollinisateurs des activités autour de l'agriculture, autour de du bâti dans les villes, donc la taille des villes qui augmente progressivement, la façon dont on maintient encore des éléments naturels ou semi-naturels dans le paysage. Donc tous nos paysages ont été profondément transformés en l'espace d'un siècle environ. Et donc pour les quelques groupes d'organismes pour lesquels on dispose de suffisamment d'informations depuis un siècle, eh bien on se rend compte qu'effectivement il y a pour une partie d'entre eux en tout cas un déclin de la diversité qui est observé.
Avec quelles répercussions, outre le déclin de la diversité, on rappelle qu'il y a 400 espèces d'abeilles en Belgique, mais outre ce déclin de la diversité, mais quelles répercussions sur le développement des cultures, des arbres, des fleurs, mais aussi sur notre développement?
Ce qui est évident, c'est qu'on a des cortèges d'espèces qui sont aujourd'hui fondamentalement différents de ce qu'on trouvait peut-être avant. Donc on retrouve des espèces qui étaient relativement discrètes il y a encore quelques décennies qui se font beaucoup plus présentes, d'autres qui étaient abondantes avant qui sont encore plus abondantes aujourd'hui, et donc on se rend compte qu'il y a une série d'espèces qui passent à la trappe et qui laissent la place à des espèces qui sont de plus en plus communes, de plus en plus généralistes et donc de moins en moins menacées quelque part. Donc on perd ce patrimoine naturel d'espèces qui étaient plus sensibles, plus spécialisées d'un point de vue écologique. Et donc là, il y a une vraie question de conservation de la biodiversité. À côté de ça, il y a toute une partie de ces espèces-là qui sont impliquées de façon relativement importante, par exemple dans la pollinisation des cultures, c'est-à-dire dans le transfert de pollen d'une plante à l'autre, ce qui permet aux cultures de produire des fruits, mais ce qui permet aussi aux plantes sauvages de simplement se reproduire de façon sexuée et donc de survivre et donc de pouvoir se diversifier par la suite. Donc on a à la fois des impacts au niveau de la flore de nos régions, puisqu'on sait qu'il y a 3/4 à peu près des espèces de plantes à fleurs de nos régions qui sont dépendantes de ces insectes. Et puis on remarque aussi qu'au niveau agricole, eh bien on risque d'avoir peut-être des problèmes à l'avenir si on fait supporter nos systèmes de production agricole sur une ou un faible nombre d'espèces des différents pollinisateurs.
Pourquoi ? Qu'est-ce qui peut se passer ?
Bien, ce qui peut se passer, c'est que les échanges de pollen entre plantes qui sont la base pour pouvoir obtenir des fruits et des légumes, ces échanges de pollen-là, ils sont réalisés de façon plus efficace lorsqu'on est en présence de plusieurs espèces. Donc la biodiversité, quelque part, c'est un moteur de production agricole, et donc forcément, une simplification de la biodiversité va simplifier ces mécanismes d'échange de pollen entre plantes et pourrait conduire à des déficits de pollinisation qui se traduiraient simplement par des productions moins importantes ou donc des productions agricoles qui auraient une valeur économique également moins importante. Donc c'est tout le secteur de l'agriculture qui en tout cas s'intéresse aux cultures qui dépendent des insectes qui pourraient être touchées. On pense aux pommes, aux poires, aux tomates, etc., aux fraises, qui sont quand même des cultures relativement importantes à l'échelle de l'économie agricole en Belgique.
Maxime Drossard, je rappelle, vous êtes à l'université de Mons, chercheur à l'université de Mons. Ça veut dire que, si je comprends bien, en diminuant la diversité finalement des pollinisateurs, eh bien demain on risque de ne plus avoir telle ou telle plante qui sera pollinisée.
Oui, tout à fait, oui. Et comme Nicolas le dit, il y a des plantes sauvages, mais aussi des plantes cultivées. Donc forcément, ça pourrait tout à fait impacter notre alimentation. Donc on aurait une diversité beaucoup plus faible d'aliments que l'on pourrait manger, et un changement total au niveau de la structure des écosystèmes.
Nicolas Verrec, alors très concrètement, vous étudiez les liens entre les pollinisateurs et les espaces verts et les milieux agricoles. Je voudrais qu'on s'attarde essentiellement sur la gestion des espaces verts, de ce que l'on peut faire aussi en tant que citoyen dans son jardin, sur son balcon ou même sur son toit. Très concrètement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire ? Au niveau de l'aménagement des espaces verts, qu'est-ce qui est prévu par les politiques de manière globale ou locale ? Et qu'est-ce qu'on peut encore améliorer ?
Alors, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on est arrivé à un point où finalement, ce qu'on retrouve comme espaces verts dans les milieux urbains, par exemple, sont relativement peu inspirants. Si vous regardez un petit peu l'histoire des différents espaces verts dans les villes, eh bien on se rend compte qu'avant, les grands parcs urbains inspiraient les gens à aménager eux-mêmes leur propre jardin. Et donc il y avait une espèce de transfert d'esthétique et de transfert de connaissances et de diversité depuis les parcs urbains vers les différents jardins particuliers. La grande partie des espaces verts en ville sont gérés de façon relativement cosmétique, au sens où on a des grandes surfaces vertes. Alors effectivement, ce sont des espaces verts parce qu'ils sont verts, mais au final, la biodiversité biodiversité qui se retrouve encore dans ces grands espaces verts, elle est très très réduite par rapport à ce qu'on peut retrouver parfois dans certains types d'espaces verts très particuliers, comme des jardins privés, qui sont des jardins un peu nature admise entre guillemets, ou certains potagers communautaires, par exemple pour les milieux urbains, qui sont d'excellents relais de biodiversité également. Donc il y a une connaissance qu'il faut essayer de réhabiliter et de rediffuser aussi auprès du grand public, mais surtout auprès des politiques, puisqu'il y a une grande partie des différents espaces verts qui sont gérés d'en haut, on va dire. Mmh. Et donc, arriver à identifier quels types d'espaces verts sont les plus intéressants ou les plus multifonctionnels en ville, c'est-à-dire des espaces verts dans lesquels les gens se rencontrent, mais des espaces verts aussi dans lesquels la biodiversité peut s'épanouir, des espaces verts dans lesquels on peut éventuellement produire en partie certains fruits et légumes, sont des espaces verts qui doivent être particulièrement recherchés et particulièrement valorisés. Alors ceux qui ne le sont pas peuvent éventuellement se complexifier quelque part et devenir de plus en plus multifonctionnel de manière à pouvoir faire en sorte que la population locale, la population urbaine puisse en profiter un maximum.
Est-ce que vous sentez un changement de mentalité justement au niveau des politiques et des politiques locales ou régionales ?
Le changement de mentalité, il est excessivement lent et donc on est là depuis plusieurs années à essayer de montrer à quel point il y a des enjeux importants autour de l'agriculture urbaine et on développe du coup, mais de façon relativement isolé, on développe des outils qui permettent aux particuliers de pouvoir mieux choisir les plantes qui sont à installer et on commence progressivement à avoir un écho également au niveau de l'administration, donc au niveau des politiques qui commencent à s'intéresser de plus en plus près à des types d'aménagements alternatifs. Mais si on reprend le cadre de l'agriculture urbaine, par exemple, c'est donc tous ces grands potagers qu'on trouve, ou ces petits potagers aussi qu'on trouve dans les milieux urbains, eh bien ça fait depuis pas très longtemps qu'on se rend compte que ce sont d'excellents relais de biodiversité. On imaginait que c'était des friches plus ou moins squattées par des gens de passage, et en fait on se rend compte que certains de ces potagers-là ont une véritable valeur patrimoniale dans notre région et qu'on trouve autant de diversité pour les abeilles sauvages, par exemple, que ce qu'on retrouve dans les réserves naturelles urbaines. Et il faudrait un positionnement politique plus clair par rapport à la protection et à la valorisation de ce type d'espace vert.
Eh bien, on va justement essayer de très, très clair et de voir ce qu'on peut faire, nous, en tant que citoyens, pour cette gestion des espaces verts. Juste après, Rag & Bone et ce titre, Skin.
Destination ailleurs, sur la première.
Et aujourd'hui, nous parlons eh bien, des pollinisateurs, les pollinisateurs qui sont de retour, que ce soit dans nos jardins, sur nos balcons ou dans les champs. Ils sont très très importants, on le sait, ces pollinisateurs. Et pourtant, eh bien, ils sont en danger. La diversité des pollinisateurs est mise à mal. Et deux chercheurs sont avec nous aujourd'hui. Maxime Drossard de l'Université de Mons qui nous parle de ce projet SAPOL, un projet interrégional pour sauver les pollinisateurs. Mais aussi Nicolas Vereken de l'ULB qui lui étudie eh bien, justement les liens entre l'aménagement du territoire des espaces verts et le développement de ces pollinisateurs. Justement, Nicolas Vereken, on le disait juste avant cette pause musicale, le changement, il est lent, mais le citoyen peut lui-même impulser ce changement, amener dans son jardin, sur le balcon, mais aussi dans le débat, la volonté de changement.
Oui, tout à fait. Et je pense vraiment que ce sont deux approches qui sont tout à fait complémentaires. Donc il faut à la fois des initiatives qui sont prises par les citoyens. Les citoyens ne doivent pas attendre que ça vienne nécessairement et immédiatement du politique. Donc ça, c'est déjà un premier axe de recherche et on essaie de développer des outils pour permettre aux citoyens de mieux choisir les plantes à privilégier pour avoir un réel effet fonctionnel sur les différents types de pollinisateurs qu'on souhaite attirer à l'échelle du jardin, à l'échelle du potager, par exemple. Et puis d'autre part, mais il faut qu'on se fasse le relais aussi de toute une série d'études internationales qui montrent à quel point ces pollinisateurs sont importants, à quel point il y a des enjeux régionaux, nationaux autour de ces pollinisateurs. Et donc on a aussi un travail de sensibilisation des différents cabinets politiques et donc des différents décideurs de manière à ce que, en complément à ces initiatives citoyennes, eh bien, il y a aussi des visions qui se développent autour de la protection des pollinisateurs. C'est vraiment encore, à l'heure actuelle, un état de balbutiement. On ne voit pas encore vraiment de très grands projets ambitieux sur les pollinisateurs sauvages qui sont repris par les politiques, mais il y a beaucoup de travail qui est fait par différentes équipes pour essayer de sensibiliser au mieux nos décideurs.
Pour en revenir à l'action des citoyens, Maxime Drossard, qu'est-ce que je peux faire, moi, en tant que citoyen, à la fois en ville, mais aussi à la campagne?
Alors il y a plusieurs actions, de multiples actions qui peuvent être tout simplement entreprises. Si on a balcon, par exemple, on peut mettre une balconnière qui peut, avec des plantes à fleurs indigènes, qui peut attirer les pollinisateurs et leur servir de gîte et de couvert aussi.
Quelles plantes, par exemple? Comme ça, on va être très concret.
Alors, il faut privilégier les plantes à fleurs indigènes, puisqu'on a quand même une diversité assez grande à l'état sauvage de plantes à fleurs. Alors, pourquoi ne pas l'utiliser ? Alors, il y a pas mal de plantes, comme par exemple la marguerite, les pâquerettes, c'est un peu le moment, la chilémillefeuille, la tanaisie vulgaire, le trèfle, le lotier. On a aussi de l'origan, par exemple, du thym. Donc voilà, toutes des plantes à fleurs qui peuvent aussi servir dans la cuisine, donc des plantes aromatiques qui peuvent aussi servir dans l'alimentation et qui peuvent aussi servir d'alimentation pour les abeilles.
Ça, c'est si on a un balcon, si on a un peu plus de chance, on a un jardin. Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de l'aménagement du jardin pour favoriser la multiplication de ces pollinisateurs?
Alors là, il y a pas mal de mesures qui peuvent être prises. Par exemple, des mesures qui me semblent obligatoires, c'est renoncer aux pesticides notamment, laisser la spontanéité de la vie sauvage reprendre ses droits un petit peu. On a aussi des mesures qui peuvent être un peu plus volontaires, comme offrir le gîte, les hôtels à insectes par exemple, qui peuvent être assez utiles. On a aussi par exemple certaines abeilles qui tout simplement nichent en fait entre les briques des murs, donc des vieux murs, et voilà, elles trouvent un nid. Donc il ne faut parfois pas faire grand chose pour pouvoir accueillir cette faune pollinisatrice. Il y a aussi offrir des bandes fleuries, par exemple, donc des plantes à fleurs qui vont vraiment pouvoir servir de couvert pour justement ces insectes pollinisateurs.
Nicolas avouerait que si j'ai de la chance d'avoir un jardin, est-ce que je peux encore faire quelque chose maintenant ou c'est déjà trop tard au niveau de l'aménagement par rapport à la saison, par rapport à l'arrivée des pollinisateurs?
Ah non, on peut encore faire beaucoup de choses à l'heure actuelle en termes de plantation. J'ai peut-être deux publications qui sont déjà publiées, qui sont disponibles pour le grand public, qui peuvent donner des outils par rapport à tout ça. On a publié il y a 2 ans une brochure qui s'appelle Un jardin pour les abeilles sauvages, qui est une publication qui était faite par le service public fédéral santé et environnement entre autres. Donc on peut trouver ça en PDF sur internet. Donc vous tapez Un jardin pour les abeilles sauvages et vous trouverez une brochure de 50 pages avec plein de conseils très pratique, toute une série de plantes qui sont sélectionnées. Ça, c'est pour des plantes plutôt sauvages. On se rend compte aussi qu'il y a une partie des plantes horticoles qui, parfois, ont encore un intérêt aussi pour les pollinisateurs. Et donc, on vient de terminer une publication avec mes collègues Pascal Collomb et Mélanie Appeldorn de l'ASBL EcoWall. J'en fais un petit peu la pub. Et c'est une publication éditée par la région Wallonne qui s'appelle « Vers un fleurissement pour nos pollinisateurs » et qui présente une centaine de plantes horticoles qui ont encore un intérêt pour ces pollinisateurs, qui permettent d'allier à la fois un côté ornemental et un côté aussi pratique pour la conservation des pollinisateurs. Cette publication-là sera disponible gratuitement aussi dans le courant du printemps. Donc on essaye d'outiller un maximum le grand public pour pouvoir faire des choix pertinents en termes de plantes. Et effectivement, on essaye d'utiliser principalement des plantes indigènes. Ce sont celles-là qu'il faut essayer de favoriser. Il y a une série de ces plantes indigènes qui sont parfois plus exigeantes en termes de sol que leurs consœurs horticoles, qui ont été parfois un petit peu sélectionnées pour des plus grandes fleurs, par exemple. Mais certaines de ces plantes-là sont encore très intéressantes. Par exemple, certaines campanules à feuilles de pêcher, certains muscaris, etc., sont des plantes qui sont extrêmement intéressantes pour les pollinisateurs. Les muscaris, vous pouvez les planter encore ce week-end s'il fait beau. Vous pouvez aller chercher certains muscaris dans les magasins et vous verrez qu'assez rapidement, ils seront visités par toute une série d'espèces printanières.
On va donc sortir ces bobottes. Maxime Drossard, sauvons nos pollinisateurs. C'est le thème de ce projet SAPOL. Quand je vous écoute, je me dis, nous, en tant que citoyens, on peut faire quelque chose. Est-ce qu'à l'échelle de la problématique de la diminution de la diversité des pollinisateurs, mais l'action concrète du citoyen a une réelle importance?
Oui, bien sûr, je pense qu'elle a une réelle importance, puisque, comme vous l'avez dit, donc ce projet SAPOL est un projet européen, donc interrégional, qui vise tout d'abord à proposer à mettre en place un plan d'action pour la sauvegarde des pollinisateurs sauvages, et ce plan d'action sera co-construit avec les acteurs du territoire, que ce soit des citoyens, des gestionnaires d'espace, des politiques, même des entreprises. Et donc tout le monde pourra participer pour faire en gros bouger les choses sur cette surface transfrontalière qui fait quand même 62 000 km² et qui comporte une population de 10 800 000 habitants. Donc si chacun pouvait faire une petite chose pour les pollinisateurs, cela pourrait déjà apporter beaucoup.
Nicolas, verrez que même question, à l'échelle de la problématique, quand on voit l'espace des jardins et puis l'espace des terres agricoles ou des espaces verts, qui sont parfois de véritables déserts au niveau de la diversité, mais est-ce que ça vaut la peine?
Mais je pense que ça vaut la peine. Toute initiative, je dirais, qui vise à hétérogénéiser le paysage, donc à essayer, même à une échelle très très locale, de réinstaller certaines plantes utiles, tout ce genre d'initiatives-là sont vraiment totalement pertinentes, même si à côté on voit ces grandes surfaces agricoles. Je peux vous donner quelques exemples de nos recherches, par exemple sur différents espaces verts en ville à Bruxelles. On s'était dit, a priori, la périphérie de la région bruxelloise est plus verte, donc a priori plus intéressante pour la biodiversité. Donc on est allé chercher, à contrario, des sites en plein cœur de Bruxelles, vraiment dans la matrice urbaine très très minéralisée. Et ces sites-là, qui sont parfois de très petite taille, qui abritent néanmoins des plantes intéressantes, sont parfois aussi intéressants en termes de diversité que certains sites qui sont un peu plus grands, qui sont un peu moins aménagés et qu'on trouve dans la périphérie. Donc ça veut dire que, au-delà du paysage qui nous entoure, il y a un réel intérêt à travailler à l'échelle des sites eux-mêmes, et donc à l'échelle des jardins, des potagers, des parcs, etc., parce que c'est là qu'on recrée ces capacités d'accueil pour la biodiversité. Donc, indépendamment de ces grandes surfaces agricoles, il y a vraiment beaucoup de choses à faire, très concrètement, avec des résultats très concrets à l'échelle des différents sites qu'on gère, simplement.
Qu'est-ce que vous pensez de ces initiatives qui sont lancées dans certaines communes, hein, qui visent à permettre aux citoyens de placer une ruche, par exemple, sur son toit ou sur son toit plat ?
Alors là, on a eu et on a encore des débats assez houleux, parce que on essaye de remettre un petit peu l'église au centre du village.
Je vois Maxime Drossard qui sourit aussi.
Quand on parle des pollinisateurs, eh bien on parle de la biodiversité. Et donc penser qu'on peut sauver les abeilles en installant une ruche, c'est comme si on pensait sauver l'ensemble des oiseaux en installant un poulailler, quoi. Donc je pense qu'il faut essayer de communiquer de façon importante auprès du grand public et surtout auprès des décideurs qui parfois se font charmer par des discours plutôt simplistes. Et donc c'est pas en installant une ruche qu'on règle le problème de la biodiversité. Au contraire, on a sorti toute une série d'études et de rapports qui montrent que l'installation des ruches, elle peut finalement aussi avoir des conséquences négatives. Elle peut provoquer une compétition pour les ressources alimentaires à l'échelle locale par rapport à la diversité de ces pollinisateurs. Il y a des transferts de maladies qui ont été décrits, observés aussi entre les ruches et les pollinisateurs sauvages. Et puis les abeilles des ruches, l'abeille domestique, qui est donc l'unique espèce qui occupe nos ruches, elle ne visite pas du tout les fleurs de la même façon que l'ensemble de nos pollinisateurs. Donc les plantes ne se reproduiront pas de la même façon non plus. Donc les ruches, c'est pour faire du miel, c'est pas pour faire de la biodiversité. Si on veut s'intéresser à l'accueil et au renforcement de la biodiversité, il faut travailler sur les ressources alimentaires qui permettent d'augmenter les capacités d'accueil de nos sites aménagés.
Maxime Drossard, quand j'entends Nicolas Verret qui me parlait entre autres des ruches, je me dis que pour les citoyens, c'est quand même pas simple de s'y retrouver, parce que c'est vrai qu'il y a des initiatives politiques, des initiatives locales qui tendent à mettre en place des ruches. On se dit, bah tiens, je fais une bonne action, je mets une ruche chez moi, et en fait c'est pas si bien.
C'est vrai que le message peut paraître un peu brouillé parfois, et c'est notamment le rôle d'initiatives comme le projet Sapol de sensibiliser, d'informer et de conscientiser le citoyen, le grand public, justement à la grande diversité de pollinisateurs sauvages qu'il y a, mais aussi, et fort malheureusement, à leur déclin. Donc c'est vraiment des initiatives comme ça qui sont globales, qui sont transfrontalières, qui vont permettre justement aux citoyens de garder le bon cap.
Quel est, là aussi, hein, ce sera ma dernière question, le poids du citoyen par rapport aux espaces verts, que ce soit les parcs qu'il y a dans nos villes ou dans nos campagnes? Comment amener réellement les acteurs de terrain au niveau local à changer leur mode de vision du développement des espaces verts?
Eh bien, quantitativement, on peut voir que les jardins représentent 6 à 8% du territoire en Wallonie. Donc si les citoyens pouvaient faire des actions en faveur des pollinisateurs, on aurait 6 à 8% du territoire qui serait déjà grandement favorable aux pollinisateurs sauvages.
Nicolas Verret, une toute petite question. Dans le cadre du printemps des sciences, ben voilà, vous allez présenter cette thématique. Ça veut dire que concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que le grand public va pouvoir découvrir de vos termes de recherche?
Au-delà de ce qu'on fait nous-mêmes au sein du laboratoire, c'est-à-dire un développement d'outils de vulgarisation et d'outils qui permettent aux citoyens de mieux choisir ce qu'il faudrait installer dans les parcs et dans les jardins, et aussi de visualiser peut-être un petit peu mieux cette diversité de pollinisateurs, il y a toute une série d'autres éléments qu'on va pouvoir présenter, certains outils didactiques, mais certains aménagements qu'on a réalisés aussi au niveau du campus de la Plaine. Et puis je dirais, au-delà de mon équipe de recherche, il y a toute une série d'autres professeurs à l'ULB qui qui sont également très activement motivés pour essayer de mieux vulgariser le métier de biologiste, le métier d'ingénieur, et éventuellement aussi ce qu'on peut amener comme science utile, entre guillemets, c'est-à-dire des recherches scientifiques dont les résultats vont avoir un impact sociétal beaucoup plus immédiat que ce qu'on a pu faire peut-être pendant longtemps jusqu'avant. Donc il y a aussi ce côté de reconnexion à la société civile qui est important, notamment dans les études sur la biodiversité.
Ben merci beaucoup à tous les deux. Merci Nicolas Vreken de l'ULB. Merci Maxime Drossard de l'Université de Mons. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Sortez le nez encore ce week-end. Tout de suite, ce sont les informations de 18h suivies de l'actu francophone. À très bientôt.